Bonjour, donc bonjour à tous et toutes et bienvenue James au GECO, même si c'est à distance. Hein. Donc je voudrais dire qu'on est très honoré, vraiment, moi en particulier, mais plus généralement les GECO, d'avoir pu organiser cette interview. Hein. Les GECO, c'est vraiment 3 jours de débat économique entre économistes, mais également entre acteurs de la vie publique, de la vie sociale, etc., sur des grands problèmes. Et donc voilà, donc, ça va se passer de la manière suivante. D'abord, Aurore va faire une présentation rapide de qui vous êtes. Et ensuite, alternativement, on vous posera des questions. La thématique étant la question, est-ce qu'il existe encore des débats entre économistes? Donc la question, vraiment, des questions souvent assez politiques. Ici, en fait, voilà. Bienvenue.
Très bien.
Eh bien, c'est à mon tour de faire la présentation. C'est mon plaisir, mon honneur de faire la présentation de James Galbraith. J'arrive à point nommé, même si j'ai eu des petits problèmes de connexion, mais mes excuses. Je pourrais présenter James Galbraith comme un économiste plutôt bien né, puisqu'il vient d'une grande famille, ayant fait des études brillantes à Yale, Harvard, au King's College. Je pourrais dire qu'il a travaillé au Congrès américain. Je pourrais citer ses travaux sur les inégalités, dire qu'il a soufflé à l'oreille de nombreux hommes politiques et femmes politiques du Parti démocrate américain ou de certains dirigeants européens. Je peux penser par exemple à Yanis Varoufakis. Je pourrais dire qu'il enseigne à la LBJ School de l'Université du Texas à Austin. Je pourrais dire aussi qu'il préside les économistes pour la paix et la sécurité. Je pourrais citer un grand nombre de ses livres, mon préféré notamment, L'État prédateur, mais je pense que si je le présentais comme ça, je passerais à côté de la personne et de l'intérêt réel que représente James Galbraith. Ce serait finalement une présentation peut-être un peu lisse et ça ne lui ressemblerait pas. Alors, si je veux présenter correctement James Galbraith, je penserais à un plat d'huître. Un plat d'huître parce que Galbraith, quand il arrive en France, la première chose qu'il dit, c'est qu'il veut manger des huîtres, ce qui traduit un très bon goût culinaire, ce qui explique, ou ce qui traduit aussi peut-être son attachement à la Bretagne, et là où il a fait une partie de ses études, et c'est ce qui explique le fait qu'il parle si bien français d'ailleurs, ce passage en Bretagne. Ça explique aussi une fascination pour des livres totalement improbables, à mon sens, comme « The English, the French and the Oyster », qu'il était très ravi d'avoir lu un jour quand il est arrivé en France et dont il m'a parlé longuement en m'expliquant qu'il fallait que je comprenne que quand même les huîtres avaient été sauvées grâce à la puissance publique et avaient été failli être détruites par l'ultra-libéralisme. Et puis le plat d'huîtres, c'est parce que c'est les personnes qu'on met autour de ce plat d'huître. Et James, il a toujours fait attention à réunir des personnes en disant, on ne sait jamais ce que ça peut donner à la fin des fins, de réunir des personnes ensemble. Et j'en sais quelque chose parce que ma rencontre avec Galbraith est la première rencontre qui a été déterminante dans ma vie et dans ma vie professionnelle. Galbraith, c'est la personne qui va vous mettre des gens très différents autour de la table. Et ça va donner des choses improbables comme par exemple, vous retrouvez à Austin, au Texas, dans un barbecue. Alors, les barbecues, c'est pas comme chez nous, hein, c'est des maisons avec vraiment beaucoup de viande, etc. C'est les barbecues texans. Et vous allez vous retrouver au milieu du Texas, dans un barbecue, avec un illustre inconnu qui est un étudiant qui fait une thèse dans une université inconnue elle-même sur un sujet improbable. Mais il va vous dire que vraiment, vous devriez vous intéresser parce que cette personne-là, elle est brillante et que ce sujet, il est indispensable. Et il va mettre cette personne à côté d'un ancien premier ministre, d'un ministre actuel, d'un syndicaliste, de gens qui viennent de partout dans le monde. Et vous allez avoir dans ce barbecue texan l'une des plus stimulantes et précises discussions que vous pouvez avoir, par exemple, sur les questions européennes, parce que c'est ça, Galbraith, c'est un espèce de mélange de chaleur humaine, de réseautage et d'exigence intellectuelle, en fait. Et cette exigence intellectuelle, je serais tentée de dire qu'il la place au-dessus du jugement moral, parce que c'est ce qui l'anime. Il a une vraie curiosité intellectuelle et c'est ce qui fait qu'il est capable de parler absolument avec tout le monde. Il a cette curiosité intellectuelle et cette exigence, elle s'explique, je pense, par une certaine culture générale, non plus les économistes d'ailleurs. Elle se traduit aussi par une plume qui est celle qu'il va prendre quand il prépare à chaque fois ses séminaires sur son paperboard jaune avec un stylo, exactement, toujours le même rituel. Et sa plume, qui est sa capacité à écrire, là aussi, c'est assez rare des économistes qui savent correctement écrire quand on y pense. Et la plume de Galbraith, elle est précise. Je ne sais pas s'il met du temps ou pas pour écrire d'ailleurs, mais elle est toujours très précise. Elle est acerbe. Elle ne pardonne pas. Elle n'épargne pas. Et c'est, je pense, quelque chose. C'est une sorte de trait familial. Galbraith, pour conclure, c'est quelqu'un qui finalement aurait pu choisir un espèce de chemin sur une espèce de long fleuve tranquille, un lac suisse, disons, bien propre sur lui, parce qu'après tout, il vient d'une famille qui est proche des cercles de pouvoir, mais il a préféré les marécages. Il a préféré les marécages parce que c'est là où, en fait, il se passe des choses, c'est là où il y a de la biodiversité, c'est là où on va trouver des choses un peu improbables, même si ce n'est pas les codes de la bienséance, c'est pas aseptisé. Et Galbraith, il est tout sauf aseptisé. Et c'est pour ça qu'il a joué un rôle prépondérant dans le pluralisme en économie, en soutenant certaines idées qui n'étaient pas toujours à la mode, la question de la planification, la question de la garantie des prix, par exemple. C'est aussi pour ça qu'il a toujours soutenu des personnes qu'il trouvait brillante, intelligente, et là encore, peu importe les codes, même si ça ne plaisait pas, d'ailleurs, des fois, à certains hétérodoxes, parfois à sa communauté même, et c'est pourquoi Laurence a voulu l'inviter, et elle a eu parfaitement raison, et c'est pourquoi on va avoir cet entretien aujourd'hui, donc sous vos applaudissements digitaux, numériques, distanciels, je ne sais pas comment dire, Monsieur James Galbraith, avec la première question posée par Madame Laurence Cialone.
Voilà, donc merci beaucoup Aurore hein, pour cette présentation qui était en plus très très personnelle, hein, qui était tout sauf aseptisée, donc ça c'est vraiment chouette. Moi ma question elle va revenir un peu sur des éléments qui ont été suggérés, qui ont été évoqués plutôt par Aurore. Vous avez été très proche, vous êtes peut-être encore très proche des décideurs américains, du Parti démocrate. À certaines époques, vous avez vraiment une influence et vous avez pu, avoir l'oreille de certains décideurs politiques. Vous avez également eu une expérience en Grèce au moment de la crise grecque, au moment où on se posait la question est-ce que la Grèce peut sortir de l'euro, hein. Vous avez pris vos valises et vous avez co-conseillé le gouvernement grec. Donc, vous avez une vraie expérience en tant qu'économiste, cette double casquette. Et qui est revendiqué de votre part, certains le font de manière plus, moins évidente, moins transparente, disons. Vous êtes conseiller du prince. Et donc, ma première question, c'est une question de retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous suggère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de cette expérience d'être à la fois un économiste académique, hein, reconnu hein, pour ses travaux académiques, et en même temps conseiller du prince.
Eh bien, merci. Je dois dire d'abord merci, Aurore, Madame la députée, pour cette introduction tout à fait exhilarante. Il aurait fallu continuer, quoi.
Je n'avais pas assez. On a qu'une heure.
Mais quant à la question, j'ai assez réfléchi. Je crois que je n'ai jamais été en conseiller du prince. Aux États-Unis, au début de ma carrière, j'étais plutôt l'équipe, chef d'équipe pour l'opposition. Alors, j'avais un point de vue, une perspective assez proche aux décideurs, mais c'était les décideurs de la révolution de Ronald Reagan. J'étais complètement opposé à ça. J'étais en fait le défenseur des traditions de Franklin Roosevelt, de Lyndon Johnson, de John F. Kennedy, des traditions qui étaient au point de la défaite, effectivement. Alors, ça, c'est l'expérience, et je crois, qu'il faut. Pour les économistes qui se veulent conseiller du prince, il faut d'abord s'habituer à la défaite, parce que les positions des hommes honnêtes et les positions des hommes qui ne sont pas achetés par les intérêts sont dans des positions, dans des situations assez faibles dans les conditions pareilles. Alors, mais en Grèce, par ailleurs, j'étais l'ami du ministre. Il n'y avait aucun besoin des conseils. Ils n'en demandaient pas, je ne les offrais pas, je ne les ai jamais offerts. Mais j'ai pu l'assister avec ses relations avec les médias, par exemple internationaux, avec la préparation de quelques textes, et surtout aussi, comme on a noté après notre départ, avec ce plan pour le circonstance où la Grèce aurait été obligée de sortir de l'eurozone, ce qui n'est pas pour finir arrivé. J'étais un peu plus proche à ce rôle de conseiller en Chine, au milieu des années 90. J'avais un titre de conseiller, mais en fait, j'étais conseiller au conseiller. C'était auprès de la commission du pont chinois, qui était effectivement un conseiller envers le conseil d'État. Ce qui était intéressant, c'était la possibilité d'amener en Chine des voix importantes, des voix qui pouvaient avoir peut-être, pouvaient aider les décideurs chinois à poursuivre un chemin qui pourrait être soutenable, qui pourrait servir les intérêts de la République populaire. Non, on a fait ça, surtout sur la question du contrôle des capitaux qui est resté depuis une des bases fondamentales de la politique économique chinoise. Mais il faut dire, il y a une exception, et c'est maintenant, je suis arrivé enfin dans la position de conseiller du prince, et j'ai le petit drapeau qui est là, c'est auprès de la République du Palau. Je me trouve dans la position de chef d'un groupe de conseillers économiques envers la République. Et ça, c'est très intéressant. C'est un pays dont la population bien moins de 20 000 personnes, et les problèmes sont extrêmement compliqués parce que ça se trouve un peu nulle part, au milieu de la Pacifique, l'océan Pacifique. Alors, on peut s'instruire sur des questions extrêmement intéressantes, mais il faut dire à assez petite échelle. Ça me convient à cet étage de ma carrière. Mais il faut dire aussi en Grèce, on n'était pas dans une crise de la dette, c'était plutôt une crise de l'austérité, une crise de la politique européenne envers la Grèce. Et pour nous, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de persuader les partenaires européens de changer de politique. Alors, c'était en fait à peu près la même chose que j'avais à faire aux États-Unis au début des années 80, mais avec à peu près le même résultat, c'est-à-dire aucun succès ni dans un cas ni dans l'autre.
C'est à moi que revient la seconde question. Comment dans ta carrière d'économiste, tu as vu le basculement au sein de la discipline et de la science économique, mais aussi chez les décideurs politiques, vers une espèce de doxa finalement, de doxa économique, c'est-à-dire où tout le monde s'est mis à peu près à raconter les mêmes choses, ce qu'on va appeler néolibéralisme ou la pensée mainstream. Quand est-ce que tu as vu ce basculement dans ta carrière, comment tu as réagi aussi face à ce basculement, et est-ce que finalement tu l'avais vu venir, qu'il y avait ce changement qui allait arriver de domination idéologique dans la discipline économique?
Ouais. je, Je dirais que le changement le plus important dans les idées des économistes, c'est arrivé presque au début de ma carrière professionnelle, moi. C'est-à-dire au début peut-être des années 70. Il y avait la génération de mon père qui était une génération d'économistes très intéressante, des gens qui s'étaient chargés d'abord aux États-Unis du programme de réforme de Roosevelt et ensuite des problèmes de la Deuxième Guerre mondiale et en Europe des problèmes de la reconstruction des pays qui étaient endommagés par la guerre, aussi dans le cadre de la guerre froide, la concurrence avec l'Union soviétique. Cette génération était déjà au point de départ dans les années 70, et il y avait une révolution académique néolibérale, au début de l'époque néolibérale, c'est-à-dire le monétarisme de l'Université de Chicago, M. Milton Friedman, ce qu'on appelait le supply-side economics, qui était aux bases de la révolution de Reagan, c'est-à-dire aussi la privatisation, la dérégulation de l'économie, c'est-à-dire l'assaut contre les syndicats, tout ça faisait partie d'un programme politique qui a été aidé, qui a été justifié, qui a été rationalisé par les économistes à cette époque-là. Et je savais déjà, il y avait des difficultés à l'université Harvard, mon père enseignait déjà en 1971, surtout l'épuration des radicaux dans le département d'économie. Alors, j'avais pas encore 20 ans à l'époque, mais ça, on le connaissait très bien. On savait ce qui se passait et ce qui allait se passer. Alors, pour moi, obtenir un doctorat en économie, c'est une espèce de protection de soi, quoi. C'est une espèce de autodéfense pour une profession, pour une carrière professionnelle et pour une carrière au bord de la politique économique. Et non parce que je voulais faire une espèce de contribution fondamentale à la théorie néoclassique de l'économie. C'était pas du tout mon intérêt. J'avais l'occasion de partir très vite de l'université pour m'engager dans les débats politiques du début de des années 80, même avant. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai fait une espèce de manœuvre qui, enfin, à un certain moment, je suis arrivé au Texas et là, je me suis, comme vous avez dit, Aurore, je me suis très bien amusé depuis 40 ans, là, presque. Pas de problème, personnellement, mais c'était dans un cadre des idées économiques qui n'ont pas changé, qui ont cessé, en fait, d'évoluer. Il faut dire que la génération présente pour la plupart des économistes se base sur les idées des économistes néolibéraux des années 60 et 70 du 20e siècle. Et c'est un problème parce que ce sont des idées, surtout la concurrence, l'équilibre général, la rationalité des individus, tout ça, qui ne sont pas du tout convenables au monde tel qu'il est, certainement pas aux problèmes dont on est obligé de faire face. Alors, c'est un moment où on peut considérer que s'il est possible pour, disons, les intellectuels, les gens les intellectuels engagés, je ne dis pas forcément des économistes, mais des gens qui connaissent comment faire, comment constituer une base d'idées, de repartir dans une nouvelle direction. C'est ça ce qu'il faut faire, je crois, mais il faut effectivement abandonner le système d'équilibre général qui est basé effectivement sur des idées qui datent d'avant l'ère scientifique, de partir de milieu du 19e siècle, qui ont été introduits par Darwin, par Marx, par les autres. Bien sûr, c'est-à-dire des idées d'évolution, des idées de changement, et non des idées de téléologique, de direction vers un état d'équilibre.
Donc, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Hein. Aujourd'hui, il me semble effectivement qu'il y a des questions qu'on ne peut plus ignorer. C'est-à-dire que qu'on soit économiste, qu'on soit citoyen, mais en tout cas, il y a des questions qui secouent la discipline qu'on ne peut pas ignorer, comme par exemple la soutenabilité écologique ou non de nos systèmes de production, de nos systèmes de consommation, etc. La question de la montée des inégalités, son éventuel lien avec le populisme, qui remonte un peu partout, la question de la montée des tensions géopolitiques dramatiques, hein, qui marque finalement un peu le glas de cette idée de mondialisation heureuse, et donc le politique, on a l'impression, revient un peu au premier rang. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on voit ressurgir des idées qu'on avait cru enterrer, des concepts qu'on avait cru enterrer, des propositions de politique économique qu'on avait cru enterrer. Et si on nous avait dit il y a 10 ans que ça redeviendrait que des choses qui seraient sur le devant de la scène, ben on n'y aurait peut-être pas cru, comme par exemple la planification. Je veux dire, on parle de Green New Deal en référence. Alors, on peut discuter, hein, mais en référence au New Deal, on parle de contrôle des prix maintenant, de manière, assez ouverte, disons, de taxation du capital. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression qu'il y a un basculement qui s'opère sous la contrainte des évidences, c'est-à-dire du fait que, effectivement, il y a ces questions qui sont comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et que notre discipline ne peut plus ignorer et qui conduit finalement, et c'est ça qui me semble intéressant, à la résurgence de certaines idées sous une forme renouvelée, hein, qu'on avait cru enterrer. Alors, je ne dis pas qu'il faut refaire la même chose que ce qu'on a fait, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. D'autant plus que certaines, vous les défendez depuis de longue date.
Eh oui. Pour la génération des années 40 et 50, comme vous savez, la planification, c'était tout à fait naturel, c'était tout à fait nécessaire. Ça faisait partie d'un programme de renouvellement, de reconstruction des économies après la guerre. Et ensuite, les économistes sont venus dire on n'a pas besoin de ça. On peut utiliser le marché qui est bien meilleur pour organiser la société. Mais dans le monde tel qu'il est, où est-ce qu'on trouve un système qui fonctionne sans régulation, sans planification? Nulle part, nulle part. Nous sommes des êtres biologiques, et les êtres biologiques se reproduisent selon les plans, selon la DNA qui se trouve dans les cellules. Autrement, ce serait le chaos. Les êtres biologiques, s'ils survivent, c'est grâce à la régulation, la température, la tension artérielle, tout ça. À notre âge, il faut bien faire attention à ça. Autrement, la vie est bien courte. Les systèmes mécaniques, les machines, hein, se sont construits selon des plans et ça marche avec la régulation. Vous avez un automobile, il faut avoir des freins, il faut mettre de l'huile dans le moteur autrement. Il faut réguler la température autrement, vous aurez des problèmes. Une centrale nucléaire sans capacité de réguler cette température, vous aurez des gros problèmes. Alors, nulle part, vous ne trouvez des systèmes qui fonctionnent sans problème. Et la société, c'est tout à fait la même chose. Vous avez les lois, vous avez des institutions, vous avez des habitudes qui sont bien inculquées dans les gens, et ça fait marcher une société. Alors, d'où vient cette idée d'un marché libre? C'est une idée tout à fait idéologique pour assister les particuliers, surtout les entreprises, les corporations, d'avoir un transfert de pouvoir des institutions plus ou moins démocratiques jusqu'aux institutions qui ne sont pas du tout. Ça, c'est effectivement la seule raison. Il n'y a pas de raison d'efficacité, de raison de progrès, de raison de prospérité qui mêle dans cette affaire. Et c'est une espèce de corruption intellectuelle qu'on instruit, qu'on remet aux élèves et aux étudiants, cette idée qu'il y a une économie qui fonctionne sur des principes et des lois tout à fait différentes de toute autre façon de vivre, des systèmes vivants, des systèmes actuels. Alors, on est bien obligé de rouvrir ces débats, mais, pourquoi est-ce qu'un économiste orthodoxe s'intéresserait à ça? C'est une espèce de défi assez profond, une base de ce genre de pensée. Je n'y attends pas, en fait. Je crois qu'il faut avancer, il faut avancer ces idées sans attendre que les gens qui sont tout à fait enfoncé dans ces idées, disons, téléologiques, archaïques, qui reconnaissent qu'il faut changer parce qu'ils ne changeront pas.
Est-ce que, quand même, est-ce qu'au sein de la discipline économique, après des années et des années où la mode, finalement, c'était... fallait surtout pas faire d'économie politique. Le mot politique était sale finalement. Hein. Donc on revenait à de l'empirisme, à de la donnée, etc. Comme si le traitement des données d'ailleurs n'était pas politique et était agnostique, ce qui est faux. Mais bon, c'était un peu l'image qui était donnée. Et on mettait l'économie politique de côté comme si c'était quelque chose de sale, etc. Est-ce que ces dernières années, tu trouves que finalement, à travers justement le retour de la question fiscale à l'agenda politique ou de la question de la planification ou le fait, quand on veut faire de fonctionner pragmatiquement une économie, il faut effectivement de la régulation, comme tu l'as dit, etc. Est-ce que ces dernières années, tu penses que on ressent quand même un retour de l'économie politique ou pas du tout finalement? Tu trouves que la discipline n'évolue pas ou tu trouves que la discipline quand même évolue un peu et que les thèses hétérodoxes prennent un peu plus de poids dans la discipline?
Ok. Quelques pensées sur ces questions. D'abord, je dirais qu'il faut avoir un positionnement théorique assez clair. Et je crois que les gens qui se disent hétérodoxes font erreur, effectivement, s'ils pensent qu'on peut baser ses idées sur n'importe quoi. Il y a des approches qui sont valables et des autres qui mènent effectivement, je ne dirais pas nulle part, mais qui ne vous avance pas, vous avancez pas un grand pas. Quel genre de nouvelles idées? Je pense qu'il faut avoir des idées qui font une espèce de, d'écologie intégrale de la science, c'est-à-dire de la biologie et de la physique, avec l'économie. Ce sont les mêmes idées. Les idées de la thermodynamique, les idées de l'entropie, ce sont effectivement la base de toute science. Pour avancer l'économie, il faut faire une espèce d'intégration de tout ça. Il y a certains, parmi la communauté de physique, il y a des idées sur le chaos, sur la complexité, tout ça, mais il y a dans ces idées une espèce d'esprit de compromis avec l'orthodoxie économique. Les gens essaient de faire effectivement des discussions et ça n'avance pas beaucoup. Alors, c'est mieux que rien. Il y a certainement quelques idées qui sont valables, qui fassent un peu lumière sur ces questions, mais il faut avoir un changement plus fondamental, à mon avis, une intégration plus profonde de la base philosophique de cette discipline. Quant aux idées, aux effets, l'accès à de nouvelles données, par exemple, sans base théorique. Il faut dire que j'ai fait quelques efforts dans ce domaine, surtout sur la question des inégalités. Et j'ai trouvé, en fait, qu'avec une base de données qui soit beaucoup plus profonde, beaucoup plus, disons, réaliste que la plupart des autres, si je peux le dire, on pouvait en faire réconcilier ce qu'on trouve dans la base de données avec des idées théoriques. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne effectivement, ça m'a dit, alors, les idées, disons, keynésiennes, les idées évolutionnistes, les idées des institutionnalistes, les idées qui sont basées sur une fondation de la science moderne, on peut les trouver la réflexion de ces idées dans les données. Alors c'est une espèce de disons, de confort, de validation d'une certaine approche dans la recherche. J'étais très content quand je me suis dit, alors, la théorie dans laquelle j'ai fait confiance, ont une certaine capacité d'expliquer des phénomènes qu'on trouve dans les bases de données. Mais pour commencer avec une base de données, faire, disons, des exercices statistiques, des régressions, les modèles auto-régressifs et tout ça, je trouve que c'est un peu stérile. Ça ne donne pas, effectivement, pour la plupart, ça démontre la capacité économétrique des auteurs, mais ça n'avance pas la discipline dans une direction, comme on pourrait dire, profonde.
Merci beaucoup. Vous êtes souvent exprimé, vous l'avez encore fait là à l'instant, hein, de manière assez critique sur notre discipline, la science économique, notamment après la crise de 2007-2008. Hein, vous aviez eu des propos assez vifs à l'encontre de notre discipline.
Oh non.
Un peu quand même.
Un peu, peut-être.
Et donc, ma question, c'est, aujourd'hui, on a quand même le sentiment, quand on est à l'intérieur, qu'il y a des verrous, qu'il y a des tabous qui sautent, il y a des verrous qui sautent, il y a des choses qu'on arrive à publier aujourd'hui on se dit, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu les publier dans les revues dans lesquelles on les publie. Ma question, c'est du coup, est-ce que vous êtes plus optimiste que vous l'étiez après la crise financière de 2007-2008 sur notre capacité à nous renouveler? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous croyez que notre discipline a une vraie capacité à se renouveler et qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins?
Absolument non. Je regrette. Je garde un pessimisme d'esprit tout à fait complet. Il y a certainement un certain nombre de gens très intéressants, surtout. Il y a toujours un certain nombre de jeunes économistes. Je pourrais nommer plusieurs de ma connaissance, je suis très heureux de les connaître, qui ont eu de temps en temps des trajets professionnels assez difficiles, mais qui arrivent maintenant à se stabiliser, qui ont des avenirs qui vont être, je crois, assez brillants. Alors, il y a ça. Mais pour la profession des économistes, il y a d'abord le fait que ma génération, la génération de mes contemporains, qui domine toujours, les gens, nous sommes des vieillards avec les idées fixées il y a un demi-siècle. Et il faut d'abord faire une espèce de, il faut balayer un peu. Ceux qui surtout font la plupart d'intermédiation entre les économistes professionnels et le discours de la politique publique. Les gens arrivent à se répéter un peu trop. Il y a d'abord ça. Et deuxièmement, il y a le fait que les gens qui viennent, qui sont dans les postes académiques, dans les grandes universités, les universités qui se disent au premier rang, surtout aux États-Unis, je crois aussi c'est la même chose en Europe, ce sont les gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique, économique, et qui font très peu de contributions dans ce domaine, parce que, peut-être parce qu'ils n'ont pas de, ça ne rapporte rien à une carrière académique. C'est même peut-être une espèce de diversion qui rapporte très peu. Il y a ça. Il y a en fait qu'ils n'ont pas d'idées très intéressantes sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les universités. Il faut partir avec des nouvelles institutions qui partent dans des nouvelles directions et qui font la possibilité des carrières qui soient renforcées par les gens d'un nouvel esprit, qui ont des idées différentes. C'est la seule façon. Si on reste à renouveler les départements d'économie dans les grandes universités, on n'arrivera jamais parce que toutes ces institutions sont fermées. Il faut publier dans certains journaux. Il faut avoir des idées plus ou moins conformistes, pas tout à fait, mais plus ou moins conformistes aux orthodoxies. Autrement, ils ne s'intéressent pas et vous n'avancerez jamais. Et pour ça, il faut faire une reconstitution, une restructuration de la vie universitaire pour reconstituer des entités indépendantes qui peuvent poursuivre l'évolution intellectuelle dans les nouvelles directions. Il y a un problème, c'est que les économistes orthodoxes dominent les administrations des grandes universités. C'est une des choses qu'ils savent faire. C'est un peu bloqué partout, mais on peut toujours réclamer un avenir différent, mais même si on ne peut pas se permettre d'être optimiste sur la possibilité d'y arriver.
je rebondis, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on va nous dire ça bientôt. Je rebondis parce que tu dis qu'il va falloir se débarrasser des vieillards, attention quand même. Mais donc, tu parles de renouvellement. Qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, pour être un bon économiste? Pas pour réussir à faire carrière, mais pour être un bon économiste, avoir une bonne structuration, en fait, qui permette justement d'être... Tu parlais des économistes qui, de ton père, par exemple, et de ses collègues, qui ont dû gérer des phénomènes excessivement durs, qui est la guerre, la reconstruction, etc. On est dans un moment avec la transition écologique et la multiplication des phénomènes environnementaux qui sont des moments durs, où on va avoir besoin de personnes outillées intellectuellement. Quels seraient tes conseils vis-à-vis des jeunes qui veulent être économistes pour être justement un bon économiste, comme toi ou comme la génération de ton père? Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Okay.
La génération de mon père avait une expérience exceptionnelle qui se répertoire pas. C'est-à-dire, à l'âge de 30 ans, mon père était chargé du contrôle des prix des États-Unis. Alors, c'était une espèce de préparation pour une vie beaucoup moins intéressante. Après, certainement jamais avec autant de pouvoir public. Il n'était pas le seul. Kuznets, il y avait d'autres qui avaient des responsabilités pareilles aux États-Unis et ailleurs. Pour la prochaine génération, il faut autre chose. Je peux vous donner quelques exemples. J'admire beaucoup les œuvres de Isabella Weber à l'Université de Massachusetts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une enquête très profonde dans la politique économique de la Chine. Elle a trouvé les bases, disons les bases intellectuelles, les vraies bases, et pas ce qu'on imagine marxiste, léniniste, maoïste, etc. Mais les vraies bases de la politique économique de la Chine dans la transition entre la période de Mao et la période des réformes. Elle a fait les enquêtes dans la langue chinoise, et elle a rapporté là-dessus, en y amenant une sensibilité des règles d'une économie réelle. Un exemple. Deuxième exemple, notre jeune professeur aux États-Unis, New School Clara Elizabeth Mattai, qui a un livre qui s'appelle L'ordre du capital, qui est une enquête très profonde sur les origines de la politique de l'austérité dans le fascisme italien et les idées économiques du Trésor en Grande-Bretagne dans les années 20 du XXe siècle, 20 et 30, mais surtout dans les années 20. C'est-à-dire une espèce d'intégration des histoires, des idées, l'histoire des idées économiques des deux pays qui étaient beaucoup plus proches et qui nous renseigne sur les relations entre ces deux tendances politiques, c'est-à-dire l'austérité d'un côté et le fascisme de l'autre. C'est un livre qui est en train d'être traduit en 11 langues en ce moment. Alors, c'est ce genre de capacité intellectuelle de traverser les frontières de la discipline, de ne pas se limiter dans certaines méthodes et certaines façons de recherche et de publication dans des journaux approuvés, vraiment un courage intellectuel. Et c'est ça qu'il nous faut. Et il faut avoir des institutions qui peuvent héberger et soutenir ce genre de travail. Alors, il y en a quelques-uns c'est-à-dire The New School, l'Université de Massachusetts aux États-Unis, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut insister sur d'autres. Si je peux me permettre un autre exemple, j'admire absolument le travail admirable de votre jeune collègue Alexandre Chira sur mon père, qui est en recherche extrêmement profonde sur l'origine de ces idées au Canada, à Berkeley, au début de sa carrière dans l'administration Roosevelt et Harvard. Beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'aurais jamais su sans avoir eu l'occasion de lire cette thèse absolument splendide et le livre L'économie intégrale de John Kenneth Galbraith qui vient de paraître par Classic Cameron.
Merci beaucoup. Je signale qu'Alexandre Chirat est justement recruté dans notre laboratoire et je confirme tout l'intérêt de son travail. Je voudrais rebondir sur des éléments que vous avez dit. Vous avez parlé de la thermodynamique, de l'entropie, et de la nécessité en fait de prendre en compte ces lois qui sont du domaine vraiment hors de l'économie, du domaine des sciences. Et ma question, c'est l'économie institutionnaliste, quand même, elle s'est beaucoup forgée dans sa porosité avec d'autres sciences sociales, avec la sociologie, les sciences politiques, l'histoire, etc. Aujourd'hui, on a un courant qui est très montant, qui est l'économie écologique, et qui justement essaye de réfléchir, qui est très différente de l'économie de l'environnement, l'économie de l'environnement étant dans la continuité d'une certaine manière de la manière de raisonner des économistes en général, mais appliquée à la question de l'énergie, des ressources naturelles. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parmi les conseils que vous donneriez à des économistes, il pourrait y avoir cette idée de il faut se rapprocher également des sciences de la vie et du climat, et on doit tester toutes les propositions que l'on peut faire en termes policy, puisque vous êtes quand même beaucoup sur des questions très policy, à l'aune du respect des limites planétaires, quoi. Est-ce que l'économiste et ses propositions ne doivent pas être contraints en fait par un préalable qui est le respect des limites planétaires et par exemple, l'économie du donut, je trouve, est quelque chose qui est assez parlant pour expliciter ça. Donc voilà, quel est votre sentiment sur ces questions-là?
Alors, je me dirais pas expert tout à fait dans les idées des économistes écologiques, je crois que l'influence de l'économiste néoclassique sur les questions écologiques a été effectivement néfaste. C'est-à-dire pendant des années, il y avait une insistance sur la capacité d'adaptation d'une économie de marché libre. Alors, pas de problème avec des questions de ressources, la qualité des ressources, le coût des ressources. On est en train de prouver que c'était une erreur, qu'il faut s'occuper de ces questions-là. Deuxièmement, sur la question des taux d'intérêt, des discount rates. Pendant des années, on discute des questions sur quel taux d'intérêt faut-il se baser. Les taux d'intérêt les plus proches des taux d'intérêt du marché. Alors, il n'y a pas de problème écologique parce que après 20 ans, ça ne vaut rien. Alors, pourquoi on peut se disposer des inquiétudes sur l'avenir après 20 ou 30 ans? Si les gens qui sont là dans 30 ans ont des différentes des idées différentes, tant pis pour eux. Alors, c'est effectivement, c'est-à-dire, donc, l'influence des idées néoclassiques sur les questions écologiques, c'est un obstacle au problème. Quant aux solutions écologiques dont on parle tout le temps, je suis un peu sceptique parce que il faut avoir les idées des ingénieurs là-dedans. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment possible? Quel est le coût de ressources pour les énergies renouvelables? Est-ce qu'on peut avoir une économie qui peut fonctionner sur les principes de rente et de profit avec des sources énergétiques qui coûtent beaucoup plus qu'ils ne coûtaient il y a 20 ans, même maintenant. Est-ce qu'on peut se dispenser du gaz naturel en faveur du vent? Alors, je trouve un petit exemple, un exemple tout petit, à Palau, dans l'île de Peleliu. C'était une site d'une bataille importante en 1944, oubliée par l'histoire depuis, avec 600 habitants, tout petit. Il y a une station électrique du pétrole, disons. Le gouvernement saoudite leur a donné une espèce de station solaire, disons un champ de football couvert des panneaux solaires. Et je demandais à l'ambassadeur, comment ça marche? Il dit, on s'en sert pas. Ça marche, mais on s'en sert pas. Pourquoi? Parce que avec la variation dans les rayons du soleil, ça déstabilise nos fils électriques et ça nous donne trop de problèmes, alors on se sert seulement du pétrole. Alors, tout petit, microcosme, effectivement, mais il y a beaucoup de ce genre de problèmes. Hein. Il faut vraiment faire un bilan réaliste sur ce qui est possible, ce qui n'est pas peut-être possible, ce qui est un peu trop difficile, trop coûteux. Je ne sais pas la réponse, mais je crois qu'il faut intégrer les économistes avec les ingénieurs, avec les gens, les géologistes, les gens qui savent un peu sur ces questions. Et puis, on peut peut-être avoir une idée un peu plus réaliste, peut-être moins optimiste sur ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'aux États-Unis, surtout avec le développement de cette idée du Green New Deal, les architectes ont en effet décidé de faire un programme politique pour attirer les activistes. Et ils ont pas consulté les gens qui font marcher les systèmes énergétiques. On avait beaucoup d'idées sur le vent industriel, surtout au bord de la mer, dans la mer. Ces projets, ils sont en train de s'écrouler. Ça ne va pas être étourdi. Il faut repartir un peu, je ne dis pas de zéro, mais avec des pertes là-dessus.
Merci beaucoup. Donc, je vois que là, on est vraiment très proche de la fin. Donc, Aurore, est-ce que tu as une dernière question vraiment à... Parce que je pense qu'on doit simplement s'arrêter à 20h.
On s'arrête à 20h. Une dernière question, peut-être.
Mon prochain livre, il s'agira sans doute de mon prochain livre. Qu'est-ce que je vais publier prochainement, hein? C'est ça?
Non, est-ce que Joe Biden te fait penser à la
à certains éléments de la politique que pouvait mener Johnson ou Roosevelt. Est-ce que tu trouves que Biden renoue un petit peu avec des économies, avec des idées un peu différentes ou hétérodoxes? En 2 minutes pour répondre à ça.
Joker.
Un tout petit peu. C'est-à-dire, c'est une espèce de mariage de la réalité néolibérale et les idées, disons, je dirais plutôt johnsoniste, mais avec un gouvernement dans la capacité d'agir a été, je ne dirais pas détruite, mais réduite au minimum par Reagan, par les Bush et même aussi par Clinton. Qui n'a pas été reconstitué par Obama, certainement pas par Trump. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dépenser de l'argent, il peut donner des subventions aux industries, mais est-ce qu'ils ont la capacité de faire un renouvellement industriel tel que Roosevelt a fait aux années 30 et aux années 40, et même aux années 50 avec effectivement la politique de construction militaire des années Eisenhower. Non, je ne pense pas. Je pense que ça va dès qu'ils vont cesser de faire couler l'argent, ils vont avoir des problèmes. Ils ont des problèmes avec une industrie électronique qui est tout à fait mondialisée. Ils essaient de refaire ça sur une plateforme nationale, et bonne chance. Beaucoup de difficultés à trouver les ingénieurs, à trouver les travailleurs, à trouver à faire marcher la technologie. Et sans le marché chinois, ça ne va pas être rentable. Alors, je ne veux pas. Il y a un esprit un peu jansoniste là-dedans, certainement parmi certains de l'équipe Biden, mais je ne suis pas tout à fait optimiste du résultat. Ils ont gaspillé beaucoup de chance effectivement, avec la politique étrangère, mais c'est une autre question. Tandis qu'à mon prochain livre, Entropy Economics, l'économie de l'entropie, les bases biophysiques de la théorie de valeur et de production, mon collègue, un mathématicien, Jing Chen, et moi, et ça va sortir prochainement, j'espère, de l'Université de Chicago Press. Triomphe pour la famille Galbraith d'avoir un petit bridgehead, je ne sais pas, un point de départ dans cette institution-là.
Eh ben c'est une très belle conclusion, c'est une conclusion parfaite.
Parfaite, oui. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont suivi cette interview. Et à bientôt peut-être en France pour de vrai.
Plaisir, hein.
Au revoir.
Au revoir.